Nous allons attaquer cette table sur l'âge de raison. Donc l'âge de raison, on dit que c'est un âge charnière pour l'enfant lorsqu'il arrive à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est une période située entre l'enfance et la préadolescence. Un âge où l'enfant a pleinement conscience du temps, il sait se repérer dans le temps, il sait anticiper la fin des temps. C'est l'âge durant lequel il prend conscience de sa propre finitude. Il commence à se poser de grandes questions existentielles. Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a toujours pas les réponses. Et donc, cette question, il se la pose à l'échelle de l'individu, mais on peut également se les poser à l'échelle de toute une société. Donc, qu'est-ce que le temps de la conscience? En quoi notre perception du temps conditionne nos capacités à penser? Donc là, pour en discuter avec nous, nous avons quatre invités qui n'est presque plus besoin de présenter en cette dernière journée du festival. Alors nous avons avec nous Xavier Mauméjean. Donc vous êtes écrivain dans le domaine de l'imaginaire. Vous avez une trentaine de romans à votre actif, notamment La Société des Faux Visages, où on voit...
Un peu moins quand même.
Pardon ?
Un peu moins de 30 quand même. Oui.
Presque 30. Où nous avons Sigmund Freud, Carl Gustav Jung et Houdini qui se rencontrent dans une enquête policière. Vous avez une vingtaine de pièces radiophoniques à votre actif. Vous travaillez pour la télé et le cinéma. Vous êtes un grand amateur de Sherlock Holmes. Et vous êtes aussi diplômé en philosophie et en sciences des religions. Voilà. Et vous exercez actuellement dans un lycée de Valenciennes. Nous avons Olivier Gester, romancier, auteur du Baron Noir et du très amusant Évariste, voilà, où on voit que le monde de la sorcellerie et celui des start-up cohabitent parfaitement. Et vous êtes un spécialiste de la survie en milieu hostile, notamment dans son aspect culinaire. Et donc vous êtes un novelliste prolifique, vous avez plus de 35 nouvelles à votre actif, et sur certaines d'entre elles, vous jouez beaucoup avec ce décalage de la perception du temps entre les différents personnages, sur différents niveaux de conscience, donc on va y revenir. Nous avons Francis Eustache, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, vous êtes directeur d'une unité de recherche de l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et vous êtes un spécialiste de la mémoire, et donc vous vous intéressez, l'intitulé de votre unité de recherche, c'est Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine. Voilà, donc vous vous intéressez notamment aux relations entre le cerveau, le comportement et la mémoire et les maladies de la mémoire. Et enfin, nous avons Richard Morgan avec nous, vous êtes spécialiste du cyberpunk. Vous avez écrit certains ouvrages célèbres tels que Black Man, qui met en scène une recomposition du monde dans laquelle les États-Unis ont éclaté en différentes régions, voilà, qui sont plus ou moins ouvertes à la technologie et ouvertes au reste du monde. Vous avez également écrit Carbone modifié, où on dépeint une société où on s'est pratiquement affranchi de la mort. Là aussi, on va y revenir. Et vous vivez en Grande-Bretagne. Vous avez donc été aux premières loges pour assister au Brexit. Et donc vous pourrez, je pense, nous donner une vision assez intéressante. Alors, pour commencer cette table ronde, je propose de commencer par l'aspect philosophique avec Xavier Mauméjean. Donc, on est sur le thème de l'âge de raison. Donc, c'est une question d'apparence très simple. C'est quoi au juste la raison et quels sont les critères permettant d'affirmer que quelqu'un est raisonnable?
Alors, d'un point de vue philosophique, la raison, c'est ce qui déjà définit l'être humain depuis Aristote, qui l'évoque comme étant un animal raisonnable. Donc c'est une faculté de produire des jugements. Si vous dites « je suis ici », c'est un jugement et c'est la raison qui permet de le faire. Alors il existe quantité de jugements, vous avez des jugements attributifs, des jugements esthétiques, cette table est belle, des jugements moraux, cet acte est mauvais. Mais toujours d'un point de vue philosophique, hein, il en existe évidemment d'autres, la raison, c'est ce qui permet à l'être humain de s'approprier le monde en le jugeant. Je suis ici, cet escalier mécanique est là-bas. C'est-à-dire que grâce à la raison, l'être humain organise le monde. Tout simplement parce que l'être humain n'a pas physiologiquement certaines capacités à s'adapter immédiatement au monde. Donc il va, au lieu de s'adapter lui au monde, il va utiliser la raison pour adapter le monde. Ça, c'est pour, de manière vraiment une esquisse, hein, la définition classique de la philosophie. Maintenant, mais on en parlera peut-être plus tard dans la table ronde, il y a aussi un choix collectif, un choix de société qui est daté à une certaine époque en Occident, d'avoir privilégié la raison sur d'autres possibilités pour s'intégrer au monde. Mais on en...
Alors justement, quels sont les critères ? Est-ce qu'il y a des critères qui permettent de définir ce qu'est une société raisonnable ?
Y a, par exemple, il y a une métamorphose politique et sociale qui est passionnante à suivre. Ce sont les anciens Grecs. Les Grecs archaïques sont des gens, sont une magnifique culture qui évolue dans un monde où existent des centaures, des sphinx. Ils font partie de la représentation du monde des Grecs archaïques. Bon, au 4e, 3e siècle avant notre ère, Socrate, par exemple, qui est l'un des fondateurs de la philosophie orale au moins, Socrate, on le sait par Platon, s'arrête lorsqu'il discute, il se tait, puis tout à coup il recommence à parler et il dit, je suis désolé, j'étais en train d'écouter mon daimon. Et le daimon, c'est une sorte de conscience chez les Grecs qui accompagne les gens. Tout le monde pense que, peut-être à l'origine d'ailleurs, de l'ange gardien chez les chrétiens, le daimon. Bon, et ça ne pose aucun problème qu'il soit à l'écoute de cette entité. Et puis tout à coup, à une génération près, Socrate, Platon, Aristote fonde la logique, la raison, comme manière d'appréhender le monde. Et on est tous tributaires d'Aristote. C'est un peu, vous voyez, comme les Vulcains dans Star Trek. Les Vulcains, c'était des sauvages qui se massacraient, etc. Et un jour, ils ont fait, parce qu'ils allaient dans le mur, un choix de société qui est de choisir la logique. C'est ce qu'ils nous ont expliqué dans la première série. Et donc, ils ont basculé dans la logique et la raison. C'est ce qui est arrivé, en fait, aux Grecs. Les Grecs sont à la fois une culture qui est celle des centaures, des sphinx, de tout ce qu'on disait. Enfin, 10 ans de guerre, un massacre général pour une femme, Hélène, à Troie. Hein. Est-ce que c'est raisonnable ? Non. Et tout à coup, avec Aristote, elle change, une culture qui change radicalement et qui invente la logique, la métaphysique, la physique, etc. C'est invraisemblable comme changement de société.
Et alors, est-ce que ça veut dire que l'imaginaire n'est pas raisonnable ?
Oh là, alors ça, c'est une vaste question. Et, oui, il l'est, mais il faut peut-être que d'autres gens prennent la parole.
Est-ce que l'un de vous veut réagir là-dessus ?
De mon point de vue, une fois qu'on veut justement créer dans l'imaginaire, il faut revenir. Enfin, moi, j'essaye de revenir à ce que j'étais avant d'avoir 7 ans et arrêter d'avoir peur de ce que je vais faire après. Justement, je cherche le lâcher prise et puis ne plus du tout penser au futur. Je veux que ça coule tout seul. Donc, j'ai plutôt tendance à perdre toute conscience du temps et de mes actes quand j'écris. Sinon, ce que je sors est laborieux et inintéressant. Donc, d'un point de vue personnel, je pense que je préfère revenir à avant 7 ans.
On se met dans un monde à part et on revient, donc le temps de l'écriture, et on revient ensuite au rationnel.
Et pour moi, pour ceux qui ont lu certaines de mes nouvelles ou de mes textes, ce n'est pas hyper raisonnable ce que je vois dedans. Je mets de la raison, mais complètement dévoyée, parce que c'est beaucoup plus amusant que de la raison pure, à mon avis.
Petite question de sémantique pour Xavier. C'est quoi la différence entre raisonnable et rationnel ?
Disons que rationnel, c'est l'usage de la faculté de la raison. Je prends une bouteille, rationnel. L'imaginaire, c'est rationnel. Si vous dites cette pieuvre est grande comme un building, c'est un jugement, donc c'est rationnel. C'est pour ça que, par exemple, dans Alice au Pays des Merveilles, il ne faut pas confondre forme et contenu. C'est extrêmement rationnel, Alice au Pays des Merveilles. Donc le rationnel, c'est l'usage de la raison. Je dirais que le raisonnable, c'est plus coloré moralement. plus une dimension, c'est une plus petite partie de la raison. Quand on est raisonnable, on est rationnel, mais quand on est rationnel, on n'est pas forcément raisonnable. Les nazis étaient rationnels et pas raisonnables.
D'accord. On peut revenir un petit peu sur
point Goodwin, en fait.
Revenons un petit peu sur l'aspect écriture, l'aspect auteur. Vous avez créé donc ce livre qui s'appelle La société des faux visages, où on a deux personnages qui sont vraiment l'incarnation pour l'un de l'introspection dans la conscience et dans l'inconscient, donc qui est Sigmund Freud. L'autre, c'est un maniaque de travail dont le métier, c'est de sortir des carcans qui lui sont imposés. C'est Houdini, il se met des chaînes et il doit justement en sortir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, d'abord nous présenter peut-être de manière un peu plus détaillée cette histoire et la symbolique qu'il y a derrière?
En fait, oui, mon dernier roman, La société des faux visages, je suis parti d'une aubaine qui est que à la fin août, début septembre 1909, Freud était à New York pour une série de conférences et Houdini vivait à New York. Et je me suis dit, c'est une aubaine, il faut les mettre ensemble. Freud, c'est le spécialiste de l'intrusion dans l'esprit. Houdini, c'est le spécialiste de l'évasion. Et donc, je les ai mis ensemble pour enquêter sur une énigme impossible, qui est une sorte de container sur les docks, composé de trois chambres. Donc, c'est un mystère à trois chambres closes. Et cet énorme container, en fait, symbolisant le système de l'esprit tel que le conçoit Freud. Donc, Freud se retrouve avec un truc énorme qui est sa représentation de l'esprit. Et Houdini, lui, se retrouve avec un défi impossible qui est de rentrer dans quelque chose où on ne peut pas rentrer. Et il est précisé tout de suite que c'est impossible, donc il doit le faire. Et de mon point de vue, c'est totalement l'âge de raison, puisque au gré de leur enquête, ils ont quelques jours à peine avant que Freud s'en aille pour régler le problème. Ça va les amener des gangs de New York, qui sont encore très importants à l'époque, jusqu'au sommet de la haute société. Et on se rend compte que le New York de 1909 et la société américaine de 1909, c'est celle d'aujourd'hui. Vraiment l'Amérique d'aujourd'hui, d'aujourd'hui. Voilà.
Très bien. Alors, la raison, on le sait, plonge ses racines dans la mémoire. Toute la structure de nos pensées et notre raison sont influencées notamment par nos apprentissages. Et qui dit apprentissage, donc dit mémorisation. Est-ce que, Francis Sautage, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se construit la conscience?
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais répondre en quelques mots à comment se construit la conscience. Non, c'est une plaisanterie dans le sens où on est sur un sujet extrêmement complexe. Alors déjà, le thème de la table ronde, l'âge de raison, c'est très ambigu, parce que la raison, ce n'est pas un terme scientifique, c'est éventuellement un concept philosophique, on vient de l'entendre, mais ce n'est pas un concept scientifique, c'est un concept extrêmement flou. Et l'âge de raison, et vous l'avez dit dans votre introduction, ce serait 6 ou 7 ans. Ça voudrait dire, enfin je fais la petite mise au point quand même pour le public, ça voudrait dire qu'à 6 ou 7 ans, il y a quelque chose qui se passe et on bascule d'un être déraisonnable à un être raisonnable. Ça ne se passe pas comme ça. La construction de la conscience, puisque vous avez utilisé ce terme, et la construction de la mémoire ou des mémoires, c'est un long processus qui commence quand le bébé naît, quand il commence à entrer en relation avec son entourage, donc avec les personnes les plus proches de lui, ses parents le plus souvent. Et puis ça va se continuer comme ça jusqu'à l'adolescence. Et puis après, mais j'ai compris qu'aujourd'hui, on va surtout parler de l'enfant, du petit enfant, jusqu'à l'adolescence. Alors, il y a différents moments qui sont des moments très importants. Il y a l'enfant tout petit qui va d'abord prendre... Parce que pour raisonner, il faut prendre conscience de soi dans le monde. Donc c'est la première époque, en quelque sorte. Alors, ce sont des mécanismes relativement simples qu'on observe chez des animaux, pas forcément uniquement les grands singes, mais qu'on va observer, par exemple, chez des oiseaux, comme les corvidés. Si on colle une pastille sur la tête d'une pie, la pie, elle va se reconnaître avec plein de guillemets, mais quand même dans un miroir.
C'est le stade du miroir.
Voilà, donc on va observer des choses comme ça qui montrent qu'il y a une certaine forme de prise de conscience. Ça ne veut pas dire que c'est une conscience totale, noétique, comme disent les philosophes, mais c'est une conscience quand même rudimentaire sur laquelle les autres apprentissages vont pouvoir se former. Puis ensuite, il y a un moment qui est très important, c'est vers l'âge de 2 ans, un peu avant et un peu après. C'est très impressionnant, c'est quand l'enfant, on voit que l'enfant commence à comprendre le monde autour de lui. Alors, il est aidé en cela, l'enfant humain, par le langage qui va permettre de structurer tout ça. Mais c'est un apprentissage quand même extrêmement important parce que je pense que là, vous êtes tous d'accord avec moi que le monde est un concept complexe. Et en fait, l'enfant apprend très, très vite les rudiments et la complexité de ce monde, les interactions avec les autres. Alors là, on arrive dans un concept qui est très important, c'est justement cette relation à l'autre. Et cette capacité que nous avons, nous humains, mais beaucoup d'animaux sociaux ont cette capacité-là, c'est de se mettre à la place des autres. C'est-à-dire, je vous regarde et je fais une théorie sur ce que vous pensez de moi. Et bon, devant, vous êtes trop nombreux pour que j'aille vers chaque visage, mais j'ai quand même une appréhension globale de la façon dont vous me considérez à l'instant précis. Alors, c'est une théorie, dans le sens où je ne suis pas sûr de ce que vous pensez de moi. Mais je suis en perpétuelle adaptation comme ça, et c'est extrêmement important. Ça va être très important pour ma construction personnelle et pour la vision que j'ai de vous. Et la mémoire va intervenir à ce moment-là, et on va passer d'une mémoire qu'on va appeler vers l'âge de 3-4 ans, d'une mémoire événementielle, c'est-à-dire que l'enfant se souvient d'événements, mais ce sont des événements encore relativement peu construits. Et puis, vers l'âge de 6-7 ans, alors on rejoint votre âge fatidique, là, on va voir apparaître une forme de mémoire extrêmement sophistiquée qu'on appelle la mémoire épisodique. Alors, la mémoire épisodique, c'est je me souviens, je deviens vraiment quelqu'un de différent du monde qui m'entoure. C'est le jeu qui prend une place très importante. Je me souviens dans un certain contexte spatial et déjà un petit peu temporel. Le temporel étant quand même un petit peu en retard. C'est manifestement, bon, c'est le thème des utopiales, hein. c'est certainement l'élément de la mémoire qui met le plus de temps à se mettre en place. Et étonnamment, il faut attendre quasi l'adolescence, c'est-à-dire 12, 13 ans, 14 ans, enfin, c'est de plus en plus précoce dans nos sociétés, pour que l'enfant maîtrise parfaitement le temps dans la mémoire. C'est-à-dire ce qui, pour un adulte, est évident, c'est-à-dire que ce que nous avons vécu, par exemple, hier ou la semaine passée, très facilement, on va situer les éléments dans le temps. Pour l'enfant, c'est beaucoup plus difficile.
Et ça reste un concept flou, quand même, à 6-7 ans, cette capacité à se situer dans le temps et à savoir quelle journée, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a fait.
C'est-à-dire que l'enfant, vers 3 ans, pour reprendre ce moment-là, ça va être un, avec plein de guillemets, passer le néologisme, ça va être un appreneur de connaissances. L'enfant va apprendre des connaissances. Alors, tout fait comme si, c'est comme, un peu comme si la nature le débarrassait à un moment donné de tous les aspects contextuels pour que son cerveau lui permette de connaître de plus en plus de choses. Alors ça, on le sait aussi par la pathologie. Hier, je parlais des hippocampes, je parlais des amnésiques adultes. C'est-à-dire que quand des adultes ont des lésions de certaines régions du cerveau, notamment des hippocampes, ils deviennent amnésiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus former de nouveaux souvenirs et ils oublient également les souvenirs de leur passé. Qu'est-ce qui se passe chez des enfants amnésiques? Des enfants qui naissent avec des lésions massives des hippocampes. Eh bien, ces enfants, en fait, ont un premier développement strictement normal. C'est-à-dire que ces enfants, ils apprennent à marcher. Vous pouvez me dire, ça n'a rien à voir avec la mémoire. Ils apprennent à parler. Ils apprennent le monde.
Ça a un rapport avec la mémoire procédurale, celle dont
on parle. Procédurale et le sens. Alors, procédurale, c'est bien sûr, ce sont les automatismes. Mais il y a plus que ça. C'est que ces enfants-là apprennent le monde. Et ces enfants-là vont à l'école maternelle. Et à ce moment-là, on ne voit pas qu'ils ont des troubles de mémoire. Alors, ce qu'on se dit, et c'est en partie vrai, c'est qu'il y a bien sûr une plasticité du cerveau qui fait que malgré les lésions des hippocampes, il y a d'autres régions du cerveau, d'autres réseaux qui vont prendre en charge en quelque sorte ces compétences-là. Mais oui et non, parce que quand ces enfants arrivent à l'âge de 6, 7, 8 ans, eh bien en fait, on s'aperçoit qu'ils sont amnésiques. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, si l'enfant rentre le soir avec un trou à son pantalon, ses parents vont lui dire qu'est-ce qui t'est arrivé à l'école, eh bien l'enfant ne va pas pouvoir raconter. Il ne va pas se souvenir de ce qui lui est arrivé. Et on va constater ça dans de multiples situations. Vous voyez, c'est pas à un moment donné, parce que bon, évidemment, ça fait penser à des anecdotes personnelles qui sont pas du tout dramatiques. Mais il y a une accumulation de faits qui montrent qu'il y a en quelque sorte un effet retard de la lésion cérébrale très précoce qui va se manifester beaucoup plus tard. Donc, ça suggère que pendant des années, les connaissances, elles s'appuient relativement peu sur des souvenirs. Vous voyez, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on a, on a une mémoire qui va... La mémoire de l'enfant va être une mémoire qui va, en fait, apprendre le monde sans former de vrais souvenirs. Les vrais souvenirs, on va les former beaucoup plus tard. Ça explique aussi pourquoi... Alors, je suis entouré d'écrivains, alors vous allez me contredire, parce que vous, votre métier, en quelque sorte, et vous l'avez quasiment dit tout de suite, c'est de revenir, je ne dis pas dire que vous revenez en enfance, hein, ce serait un peu simpliste de dire ça, mais retrouver peut-être une forme de mentalisation précoce qui vous permet de revenir à des choses très, très, très élémentaires et sur lesquelles vous puisez votre imagination. Mais ce que je veux dire, c'est que ça explique en partie ce que Freud, d'ailleurs, il a été le premier à utiliser le terme, a appelé l'amnésie infantile. L'amnésie infantile, c'est une amnésie que nous avons tous, l'amnésie de notre enfance. C'est-à-dire qu'il nous reste des bribes de cette enfance qui a forgé une partie de notre identité qui est extrêmement importante. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas appris, au contraire, on a appris énormément, mais on est amnésique des événements de notre enfance. Et en fait, les premiers événements un peu structurés de notre enfance, ils apparaissent vers l'âge de 6, 7, 8 ans. C'est en cela que vous n'avez pas complètement tort dans le titre que vous avez donné à votre table ronde. Voilà.
D'accord. Mais alors, du coup, revenons-en un instant sur les enfants amnésiques. On a vu, vous nous avez dit, dans les premiers stades de développement, ils ont un développement tout à fait normal, ils arrivent à marcher, ils arrivent à se développer comme n'importe quel autre enfant. Est-ce que, par la suite, ces enfants, malgré leur amnésie, arrivent à développer, on imagine que la réponse est oui, mais comment ils arrivent à développer une raison?
Alors, après, il ne faut pas tomber dans les caricatures. L'exemple que j'ai pris là, c'est un exemple de travaux très, très sérieux qui ont été faits. Et puis ensuite, il y a des tas de situations différentes. Hein. Tout dépend initialement de la maladie de ces enfants, de l'étendue des lésions, comme toujours, la façon dont ils vont être entourés, ça c'est très important, comment ils vont être pris en charge, comment ils vont être soignés, comment ils vont être pris en charge aussi par leur famille. Tout ça va être très important. Et puis, il y a aussi la suite. Généralement, il faut quand même dire que ce sont des histoires qui se terminent quand même relativement bien. Hein, parce que le cerveau est extrêmement plastique. Et ce qui est important, là, mon intervention, elle n'était pas dans un cadre clinique, vous voyez, d'expliquer des maladies. Mais elle était plus dans un cadre théorique. Hein, ça permet surtout de montrer que... puisque vous voulez que je parle des âges de la mémoire en quelque sorte, mais
absolument,
des âges précoces de la mémoire, je pense que c'est important quand on regarde les enfants évoluer, même quand on n'est pas spécialiste hein, du domaine, quand on est simplement parent et éducateur, enfin, ce qui n'est déjà pas rien, c'est d'essayer de comprendre ça. Je pense que c'est potentiellement intéressant de savoir ça, de savoir que les enfants ne mémorisent pas comme nous. Ils mémorisent très différemment de nous. Et un enfant de 3-4 ans, ça ne veut pas dire qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a fait 15 jours avant, quand il revoit ses parents, ses grands-parents, après des vacances ou après une interruption ou une autre. Mais il remet les choses dans un ordre qui est très différent. Et ça, je pense, enfin, moi, c'est quelque chose que les amnésiques m'ont appris. Moi, les amnésiques m'ont appris énormément de choses. Et ces connaissances sur ces amnésiques enfants m'ont appris aussi des choses nouvelles
y compris par rapport au développement normal. Et ça permet comme ça de passez-moi l'expression, de recoller un peu les morceaux de tout ce qu'on disait sur l'amnésie infantile, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il y a une théorie qui est bonne sur l'amnésie infantile. Moi, je pense que quand on est face à des phénomènes comme ça, des phénomènes complexes, il faut discuter justement dans un cadre pluridisciplinaire. Je pense que les neurobiologistes vont apporter des choses. Je pense que les neuropsychologues, c'est ma discipline, apportent des choses, mais les psychanalystes apportent aussi des éléments. Et ce qui est intéressant, c'est de faire un melting pot de tout ça pour essayer de comprendre.
Très bien. Alors, c'est intéressant de voir comment, du coup, à partir de ces données physiques, psychologiques, comment les auteurs s'emparent de ces thématiques et comment ils les retranscrivent dans leur œuvre. Alors là, je me tourne vers Olivier Gechter. Donc, vous êtes auteur d'une nouvelle particulièrement intéressante sur le sujet parce qu'elle épouse totalement ce thème de la mémoire et dans ses différents stades et aux différents stades d'avancement de la vie. Donc, je pense à une nouvelle qui s'appelle La boucle de Zurvan. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette nouvelle, nous la pitcher
Bon, c'est toujours difficile de parler de son propre travail, mais on va essayer. Et surtout qu'il remonte un petit peu, celui-là, et j'ai une très mauvaise mémoire. Il faudra qu'on en parle peut-être après. Donc, en fait, La boucle du Zurvan, c'était un essai pour faire une nouvelle où tous les personnages sont la même personne à différentes étapes de développement, mais vivant tous en même temps, dans le même temps. Donc, j'ai imaginé un lieu où le temps ne s'écoule pas, où donc on peut croiser des gens de différentes époques. Et bien sûr, je fais tout ce que je peux pour perdre le lecteur qui s'en rende compte qu'au bout de quelques pages, désolé, je vous ai complètement spoilé, mais comme le livre n'est plus édité, c'est pas très grave.
Donc, ça n'empêche pas de l'apprécier.
En gros, on commence l'histoire par l'arrivée d'un enfant dans une espèce de temple qui est accueilli par un adulte, qui en réfère à un vieillard. Et puis, on se rend compte que le vieillard... meurt, l'adulte prend sa place et l'enfant est devenu l'adulte. Et puis on se demande, mais quand, ça commence quand tout ça? Et à un moment, un peu juste au moment de la mort du vieillard, un autre protagoniste arrive, décidant qu'il veut le secret de ce temple parce que lui, il voit son intérêt et seulement son intérêt. Je me suis un peu inspiré d'Alexandre le Grand, par exemple. Il veut le secret qui le rendra immortel puisqu'on est dans une boucle et on vieillit pas. Et je spoil à fond, désolé. Donc finalement, lui est l'enfant. À un moment, il y a un twist qui fait qu'il devient l'enfant qui va devenir l'enfant. Il devient le bébé qui va devenir l'enfant, qui deviendra l'adulte, qui deviendra le vieillard. Voilà, donc, et pour moi, c'était un petit peu, en fait, cet adulte qui vient et qui veut... c'est un adulte immature, extrêmement capricieux, qui pense qu'à son intérêt propre. Et en fait, il n'entre dans la boucle de la vraie vie qu'une fois qu'on l'a rejeté dans ses couches, carrément. Où il peut, cette fois, apprendre à avoir une vraie vie épanouie. Bon, dans un milieu pas très épanouissant, il faut quand même reconnaître.
Pouvez-vous nous raconter un petit peu la genèse de cette œuvre? Comment vous avez d'abord conceptualisé cette idée-là? Est-ce que comment on invente une histoire comme ça qui boucle sur elle-même?
En fait, je m'intéresse pas mal au temps et à la perception du temps pour des raisons personnelles, pour avoir vécu des moments où j'avais l'impression que le temps fonctionnait plus tout à fait correctement. Je pense que les afflux d'adrénaline quand j'ai sauté en parachute, ça me perturbait de toute façon pas mal ma perception du temps, mais ça m'est arrivé de passer un peu en mode, ceux qui sont dans la salle vont comprendre tout de suite, en mode bullet time, où je voyais le temps ralentir et j'avais le temps de penser à des tas de choses en une ou deux secondes avant de me mettre à réagir face à un événement. Genre, le truc le plus trivial qui m'est arrivé, c'est une feuille d'arbre qui tombait tout doucement. Et j'ai eu le temps de la regarder. Puis en fait, elle a dû tomber en une seconde. J'ai eu l'impression que ça durait 10 minutes.
Alors, pour préciser quelques éléments de contexte de cela, en plus d'être un spécialiste de la survie en milieu hostile sur son aspect gastronomique, vous êtes aussi un pratiquant d'arts martiaux, et donc c'était dans un contexte assez particulier que vous aviez eu cet effet bullet time. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça un peu?
En fait, j'avais plus ou moins fait une petite parenthèse sur mes études, Et j'ai passé 6 mois à m'entraîner plusieurs heures par jour, donc au moins 16 par semaine, à différents types d'arts martiaux, dont un Qigong bien répétitif et assez hypnotique. On pouvait faire 1000 fois le même mouvement dans la journée, des choses comme ça. Et petit à petit, je me suis mis à avoir des accélérations, enfin comme si mon cerveau accélérait à toute vitesse ou comme si le reste autour ralentissait. Et bon, à cet âge-là, je n'écrivais pas du tout, j'ai écrit 10 ans plus tard environ. Mais ça m'avait vraiment travaillé en me disant, en fait, le temps, c'est juste ce que j'en fais, quoi, finalement. Et puis petit à petit, je me suis même... je m'amuse à essayer de plus m'en préoccuper du tout du temps, parce que pour moi, il est devenu assez relatif. J'arrive à perdre mon temps un mois à écrire quelque chose. J'ai l'impression que j'y ai passé un an tellement j'ai souffert. Et puis le lendemain, je règle tout en 10 minutes et ça, c'est venu. Et j'ai l'impression de m'être plongé plusieurs jours dans le travail. Donc c'est quand j'arrive à me détacher complètement du temps, c'est là que j'écris bien. Donc je m'entraîne justement à arriver à cet état où je suis plus dans la perspective d'attendre quelque chose, où je suis, j'essaye vraiment d'être dans un état second, et là j'écris. Il m'arrive même de découvrir ce que j'ai écrit, de dire « Ah, c'est pas mal, c'est moi écrit qui ça, cool !» Et j'en ai aucune mémoire.
C'est l'illustration parfaite des lignes de temps différentielles et de la perception en fonction de l'endroit où vous trouvez, que décrivait Roland Lehoucq et qu'on a découvert pendant toutes ces conférences. Je voudrais revenir un instant sur cet aspect bullet time. Alors, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on a découvert, que moi personnellement j'ai découvert avec le film Matrix. C'est quelque chose qui paraît être de l'ordre de l'imaginaire et du fantastique. Et là, vous nous en témoignez une réalité. Est-ce que, au niveau physiologique, au niveau cognitif, il y a des explications de ce phénomène de perception différentielle du temps?
Alors, pour aller vite, en fait, cette perception du temps, elle est très liée à l'attention. Alors, vous avez pris l'exemple là, tout de suite du saut en parachute où l'attention est exacerbée et donc le temps va se ralentir. Et c'est vrai aussi aux âges de la vie. J'ai parlé plutôt des petits tout à l'heure, mais les grands vont avoir une attention qui va grandir. Les grands du CM, les grands du collège, les grands encore plus du lycée vont avoir une attention qui va grandir. Et donc, alors ceci dit, l'individu n'est pas seul. Il y a aussi ce qui va se passer autour de lui. Ça va correspondre aussi à un monde extrêmement riche autour de lui, avec des premières expériences qui vont renforcer aussi le contenu de la mémoire. Donc, il y a à la fois les facteurs attentionnels, donc qui sont très développés à ce moment de la vie, c'est-à-dire le grand enfant, le grand adolescent, le jeune adulte. Et puis ça va l'être un peu moins par la suite, quand on vieillit, quand on devient un adulte mature et quand on vieillit, les facultés attentionnelles vont être moins présentes et donc on va avoir l'impression...
On devient moins attentif en vieillant.
On devient un peu moins attentif.
Ça aussi, c'est contre-intuitif.
Non, c'est pas contre-intuitif. Je pense que l'attention, la mémoire est un peu moins présente. Ça veut pas dire qu'on a des troubles de mémoire, mais... La mémoire est quand même moins perspicace que quand on avait 16 ans, 18 ans, quand on préparait le bac ou les concours, etc. Et donc il y a ça. Et puis il y a toutes ces premières expériences qui ponctuent comme ça la jeunesse, les rencontres importantes, le premier job, le premier salaire, enfin, la première fois qu'on a conduit une voiture, le permis de conduire, enfin, etc. Vous voyez, c'est quand même des moments très, très structurants pour la personne. Bon, ça dépend des sociétés, bien entendu, mais on retrouve ça dans toutes les sociétés. On a même un terme pour ça, ce qui s'appelle le pic de réminiscence. C'est-à-dire que quand on va vieillir, eh bien, on va conserver beaucoup de moments de cette période-là. Ça, on retrouve ça chez tout le monde, dans toutes les cultures. Et donc, vous voyez, il y a des facteurs. Quand on commence à parler de la mémoire avec un peu de précision, il y a bien sûr des facteurs neurobiologiques, cognitifs, mais il y a des facteurs aussi sociaux qui vont alimenter cette mémoire. Donc c'est cet ensemble qui permet d'expliquer cette différence dans la perception et la mémorisation du temps.
C'est ce qui explique justement cette différence de temps perçu quand on est enfant sur... Enfant dans une salle de classe, on reste une heure pendant un cours d'une heure à se demander quand est-ce que ce cours va finir et si c'est dans 2 ou 3 siècles que cette heure va arriver au bout, alors qu'à nos âges, attendre une heure, ça paraît finalement pas être la fin du monde.
C'est aussi une des explications de l'amnésie infantile qu'on évoquait tout à l'heure. C'est qu'on est très différent adulte d'enfant, quand on était enfant. Et pour retrouver l'enfance, en fait, il faut retrouver des indices de cette enfance. Et ces indices, en quelque sorte, ils sont biaisés. Le temps est biaisé, l'espace est biaisé. Quand on retrouve un espace qu'on a connu dans l'enfance, on est très surpris. Généralement, on imaginait des espaces très, très étendus. Les espaces sont beaucoup plus restreints. C'est aussi un des éléments qui explique la difficulté de récupérer les souvenirs d'enfance in extenso.
Je voudrais revenir un instant sur la boucle Zurvan. Et donc, on a un personnage qui se rencontre lui-même, on l'a dit, à différents stades de sa vie, dans une boucle qui fait un espèce d'éternel recommencement. Qu'est-ce que ça vous inspire en termes scénaristiques ou philosophiques? Parce que dans l'histoire, le personnage grandit, il mûrit, il acquiert une certaine sagesse, une certaine raison. Mais au final, l'histoire reboucle. Et du coup, il repart à zéro. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la raison, c'est au final quelque chose qui n'est jamais acquis? Ou est-ce que c'est pas la raison qui compte, mais c'est le chemin vers la raison?
Xavier, sauve-moi. ou Richard, sauvez-moi.
Yeah, okay. thank you. I think that reason is overrated. And I want to specify that quite clearly. When I say overrated, I don't mean overvalued, not at all. I don't think we value it nearly enough, and in fact, it's probably the most valuable thing we have as a species. But it's overrated in the sense that I think we think that there's a lot more of it around than there actually is. When as a writer, I have to give motivations to my characters. I have to work out why they're doing things, and that's more complicated than you might think it would be. Especially if you want a story that's more human than your average Hollywood blockbuster story, where, you know, motivation A equals action B, and away you go. If I look at something my character does and I understand a reason why they did it, that's okay. I'm doing okay. If I look at the character and I look at the action he's taken, and I'm not quite sure why he did it, but I've got a kind of a cloud of ideas why, then I know I'm really on. That's when I know that I'm writing well. Because, to be honest, that reflects all of us. That reflects the human condition. If you think back to a decision that you made, including quite momentous decisions like moving to a new town, or changing your course of study, or deciding to have a child, it's very rare, I find, that I can actually go, yeah, I did that because of this. Usually it's a mishmash of situational stuff and conflicting ideas and what someone else said or imposed upon you. And we're never very clear. And I think the truth of the matter is that, you know, reason in the sense of rational behavior, it's not anywhere like a major part of how we behave as humans. I think the best way to think of reason is that it's the brightly colored umbrella on top of a very tall cocktail. And all the really powerful stuff in that cocktail, it's not the umbrella, I'm telling you. That stuff is in the cocktail. And those are drives, some of them more that we're more aware of than others, but those are drives that don't have an awful lot to do with reason, with working stuff out and applying a rational set of rules and behaviors. Unfortunately, I think that is something that seems to be contaminating current political discourse as well. I, as Iran pointed out, to my eternal shame, I'm from a country that is now in the process of having a nervous breakdown, of destroying itself, to be honest. And I always thought, I think certainly until the last 10 years or so, I really thought that as a species, we really were starting to come of age. And this age of reason perhaps was beginning to dawn, that it's been a long time dawning. It's taken, you know, most people go back to the Enlightenment and say, right, we've had about 300 years of this more rational approach to human existence. I think obviously there are roots that go back much further than that. But I used to think, I mean, Daniel Dennett, the American philosopher, puts it in a nice way. He says, I like to think that planet Earth has grown a nervous system, and we are it. So the planet becomes aware of itself, of its limitations, of its problems, of it, and this comes through us because we are a species that's able to be rational and to think and apply rationale to what we do. And obviously now that we're living in the Anthropocene period, what we do to the Earth is very important. But what I'm seeing is a kind of regression. It's almost as if we've had some 300 years of enlightenment rationality, and we've been imposing it more and more. It's coming to have more and more effect on our society. We start to worry about the kind of nativist, tribalist, deeply irrational impulses like that give rise to things like racism, like sexism, these kind of things. And we seem to be getting a handle on all this. We seem to be behaving like a child that's growing up. My son is 6 and I'm watching him start to take his first steps into this kind of maturity. And it's almost like it's too much. And now America is run by a child who is almost certainly less than 7 years old mentally. And my own country seems to be governed by people who are also floating around that age. They don't seem to have a grip on reality. They don't seem to understand basic things like cause and effect. They don't seem to have grasped what the impact of decisions that they're taking are. And it really scares me because it makes me worry. It makes me wonder if there are actual limitations in the human psyche that prevent us from really taking steps into this age of reason. You know, back in the 50s, there was a common science fictional conceit that we would all live in these white cities in the sky and everything would be wonderful and we'd live off vitamin pills. And that vision, again, was ridiculously Eurocentric and had very little scientific basis at any level. But there was a kind of comforting sense that we were getting somewhere, that things would get better, that we would slowly begin to emerge from this state of barbarism, that democracies would flourish in more and more countries, that human rights would become the dominant force in politics, that we'd really move on. And it scares me because in the last 5 or 6 years, what I've seen is a refusal of that, a desire to turn away, a kind of a return to an infantile state where we just want to gratify our urges and we don't want to think about anything more complicated than that. So, yeah, it's scary times, I would say.
Mais alors, on sait que dans le cadre de l'apprentissage d'un enfant, par exemple, on s'est fait d'une série de progressions et de régressions. Ils apprennent des choses, ils savent faire des choses. Pendant une semaine, ils ne savent plus le faire, puis à nouveau, ils y arrivent. On assiste à la même chose à l'échelle d'une société, c'est-à-dire il y a des phases de progression, puis des phases de régression importantes. Là, visiblement, vous me dites qu'on arrive dans une phase de régression. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la durée ou ça n'est qu'un mouvement du balancier qui va repartir dans le bon sens, entre guillemets ?
Well, I don't subscribe to a sort of a theory of progress. That's the problem. I mean, I don't believe... there are a lot of erroneous beliefs, based, like the idea that we are evolving towards higher states. We're not. We're evolving to suit circumstance. And that can go in all sorts of directions. You know, the creatures that live on Earth now are not better than the creatures that used to live on Earth a million years ago. They've just evolved to suit the environment. I don't believe in human progress either as some kind of natural law. Everything we have achieved, we can throw away, and looks as if we are doing at the moment. Now, I said at the beginning that I think reason is overrated, and I say what I mean by that is I think we've taken it for granted for far too long. I think we're failing to understand quite how fragile the structures we've built can be. And in that sense, I'm not comforted by this idea that we sort of go forwards and back, forwards and back. We can't really afford to go very far back anymore. If we regress, we see this with the climate change accords, the Paris Accords. The United States is still looking at walking away from those. That's not a pendulum swing we can endure. If that happens for real, and has an impact globally, that doesn't have to be a pendulum swing of many years before it really has catastrophic effects. Yeah, I mean, the future is uncertain, and there's no sense, I think, that we're not getting better as either as a species or a society. But what we do need to do is get back to the idea of reason as valuable and to say to people, no, it is not cool to just go with your instincts, to go with your basic feelings. We have to understand that things don't work like that. It's all a little bit more complicated than that. I think, in a sense, this is also a crisis of capitalism. And again, before I go down that road, please don't. I mean, I'm in favor of market systems. I think they work very well. They've delivered an enormous amount of wealth to us, which we should appreciate. But one of the problems with capitalism as a mechanism, especially advanced capitalism, is it tends to infantilize. It will tell you, first of all, it will say, okay, what's your problem? You're hungry. Okay, we will find some way to supply you with food as long as you can pay for it. That need gets satisfied. Then it becomes a more sophisticated need. I want to eat food from other places. No problem. We can supply that. We will create restaurants in your cities from every workplace on the planet, and you will be able to satisfy your curiosity for different kinds of food. Awesome. What's your problem now? Well, you know, it's between breakfast and lunch, and I'm kind of a little bit hungry, and I don't really want to wait till lunchtime. Okay, no problem. We can give you this chocolate bar, which is packed with vitamins and artificial minerals, and you can eat it now. You will never have to be hungry for more than 10 minutes again. This process, while laudable in its basics, is actually a problem in its advanced stages, because it does infantilize. It tells you, look, you shouldn't want for anything. You should not have to strive. You should not have to try. Don't expect to be challenged in life. Life should be comfortable. Life should be easy. You should be able to buy everything that you want and make yourself happy. And if you're uncomfortable and unhappy, we can sell you pills that will change that. That's not a healthy dynamic for a society. So we also need to address that. We need to address the way in which we've built very successful market systems that have created enormous amounts of wealth and comfort for us within society. But those processes are now, I think it's always been the case, those processes tend towards infantilism. And we have to find some way to reject that. You can't reject capitalism, the mechanism. It is far too powerful, far too useful. But we have to find some ways to monitor and control it. To find some, in essence, to regulate it. And that really is where we come out, I think. It's about regulation, the understanding that all these impulses and the powerful social and economic forces that we have set in motion have to be regulated. And that regulation has to come from a place of reason. But I find myself in a very small minority when I say these things, because certainly in my own country, people, the political discourse is more... And you can't really argue with that.
Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez sur l'état de nos sociétés et est-ce que nos sociétés tendent ou pas vers un âge de raison?
Moi, je voudrais revenir à un niveau individuel pour faire la balance avec les aspects collectifs. Parce qu'on a beaucoup insisté là sur raison, rationalité, consciente. Les choses se passent comme ça à certains moments. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions à un moment précis, on va se concerter et on va pour prendre une décision importante. Mais la plupart des décisions, on ne les prend pas comme ça. Et la construction, elle est beaucoup plus implicite. Elle se construit en parallèle de notre conscience de nous-mêmes, de nos convictions, de nos croyances, de nos buts, de nos aspirations, etc. Et là aussi, je reviens à un processus beaucoup plus lent. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des ruptures dans les sociétés, il y a des ruptures, et puis dans la vie de chacun de nous, il y a des ruptures. Mais il y a ce long processus. Et il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est quand consolide-t-on nos souvenirs et même quand prend-on certaines décisions ? Quand faisons-nous certaines découvertes ? Il y a des exemples célèbres. Et en fait, tout ça, on le fait pendant le sommeil. On le fait pendant le sommeil, qui est un moment où je ne dis pas qu'on n'est pas complètement conscient pendant le sommeil, parce qu'il y a des micro-éveils, etc. Enfin, on commence à mieux connaître tout ça. On n'est pas complètement hors conscience. Mais tout de même, on est dans un état de conscience modifié qui est très différent de l'état de veille. Et en fait, ce sont dans ces moments-là que l'on va consolider nos mémoires, la synthèse de notre mémoire, ce qui est quand même extrêmement important. C'est là qu'on va faire le tri, pas uniquement à ce moment-là, mais c'est une grande partie là. Et c'est aussi là qu'on va faire les décisions, parce que c'est le lendemain. Quand on dit la nuit porte conseil, c'est plutôt un bon proverbe. Et c'est la même chose pour certaines grandes découvertes qui ont été faites comme ça pendant le sommeil. Donc ça permet un peu de, juste mon intervention, je termine, ça permet de moduler un peu une raison qui serait ultra consciente. Ce que je pense, c'est faux de penser ça.
Ne jamais prendre de décisions importantes le jour même, toujours les remettre au lendemain, c'est ça?
Non, je n'ai pas dit ça forcément, parce qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions très vite. Donc là aussi, il n'y a pas de généralisation abusive.
Est-ce que vous voulez rajouter un commentaire?
Bon, moi, de toute façon, je crois que... Enfin, je suis amateur d'histoires qui finissent mal, hein, donc je préfère pas dire exactement ce que je pense.
Une ultime question avant de peut-être de passer aux questions du public. Richard Mangan, dans Carbone modifié, vous dépeignez un monde dans lequel le temps, parce que c'est la thématique des utopiales, n'a plus d'importance, puisque la technologie permet de sauvegarder régulièrement son esprit dans une espèce de matrice, et en cas de décès, il suffit de recharger sa matrice esprit dans un nouveau corps, et puis de repartir à nouveau pour un nouveau cycle, et ce autant qu'on veut. Est-ce que une société, selon vous, qui est capable d'apprivoiser ainsi la mort, est une société qui pourrait, ça pourrait être un des critères pour justement lever toutes ces tensions sur la survie et tendre vers un âge un peu plus raisonnable?
Well, the short answer is no. The worlds I portrayed in Altered Carbon and the two books that come after it are not really any more well-behaved than the one we live in now. I mean, I just extrapolated from where we are with late-stage capitalism in the Western world. That was my model, if you like. Technology won't solve anything. Technology provides us with very useful and powerful tools, but we have to learn how to use them. We have to. The example I like to give is that we have now for several decades had the capacity to see that no child ever dies of hunger anywhere on the planet, and we haven't done it. So is this because we don't give a shit about children? Why haven't we done it? This is a human limitation. It's not a limitation of the technology, it's a limitation of our ability to apply it as a species. So no, the technology isn't going to, even that technology, which would defeat death, wouldn't necessarily solve these problems. In fact, there's in Altered Carbon, there is a haiku that one of the characters discovers scrawled on the wall in a prison, in a penal facility. And it goes, I'll go very slowly in case, you know, I hope you'll be able to follow this. It's just talking about the idea of putting on a new body, you know, wearing a new body. And it says, pull on the new flesh like borrowed gloves and burn your fingers once again. And the implication really is that, yeah, we don't really learn. You know, you get your new body and then you go and fuck up in the same way and make the same stupid mistakes in this body that you did in the old body that you had before. I'm not quite that pessimistic. I think we do learn, but we learn very slowly and we seem very ready to forget certain lessons over and over again.
Vous partagez ce point de vue, Olivier et Xavier, sur l'aspect la technologie ne va pas nous sauver ou ça peut pas être un moyen?
Bah, la technologie, c'est ce qu'on en fait. Elle-même, elle est responsable de rien. C'est un moyen, c'est tout. C'est une fin. Dans le roman de Richard Morgan, il y a un passage qui est très beau. Le héros fait l'amour avec une femme qui est très très belle et qui en même temps est très très vieille. C'est-à-dire qu'elle en est à je ne sais combien d'incarnations. Justement l'excès de raison là fait que il est horrifié parce que même si le corps physique est splendide, il sait ou il sent que c'est une très très vieille dame. En fait il y a une sorte de répulsion à ce moment là et je trouve que en conclusion de la table ronde avec les questions, c'est vraiment cette image de Richard Morgan qui moi me marque parce que par la raison, quelqu'un de vieux devient jeune. Par les sentiments, on rétablit la raison. En fait, on se souvient que c'est une très vieille dame. Et elle a la mémoire de toutes ses vies qu'elle a eues. Et elle ne peut pas lâcher prise, elle ne peut pas mourir. Il faut absolument qu'elle, raisonnablement, et en fait de manière totalement irrationnelle, continue d'être vivante. C'est une très très belle image de Richard Morgan.
Merci pour cette conclusion. On va peut-être faire circuler les micros pour quelques questions. On en a une ici.
Oui, bonjour à toutes. J'ai une question sur la mémoire eidétique. Est-elle un mythe, une réalité? Et si c'est une réalité, comment est-ce qu'elle se construit chez l'enfant ou pas?
C'est une question pour moi.
Vraisemblablement, oui.
Parce que sont des mots qu'il faut toujours préciser. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière? Après, je vais vous répondre.
Oui,
parce que c'est un terme qui est utilisé dans différentes acceptions.
Alors, ce que j'appelle... en fait, c'est, je fais référence à une figure qui est assez souvent utilisée dans la science-fiction, c'est la mémoire totale.
Oui.
Qu'on l'ait biologiquement ou par le biais justement d'appareils. Alors évidemment, par le biais d'appareils, comme dans le livre de M. Morgan, ça n'existe pas pour l'instant, c'est bien évident, mais ça fait référence à une thématique biologique qui, paraît-il, existe ou pas.
Je vous suis. J'ai juste besoin de cette précision-là. Ce sont des images, en fait, qui seraient photographiées, une espèce de mémoire photographique. Alors, on appelle ça plutôt dans le jargon des neuropsychologues et des neurobiologistes une mémoire flash ou un souvenir flash, un peu comme le flash de la photo. Et ces souvenirs flash, ils sont observés dans des situations particulières. Alors, ce sont des situations sociales qui surprennent les personnes et qui ont a priori une importance. On détecte tout de suite une importance pour la suite. Alors c'est typiquement, les grands exemples, c'est l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. On est surpris. Bon, il y a souvent un contexte dramatique. Et puis ça va entraîner des changements importants. On le perçoit tout de suite. Le 11 septembre américain, bien évidemment, ça en fait partie. Là aussi, c'est très impressionnant. Et il y a plusieurs événements qui surviennent. Il n'y a pas un avion, il y en a plusieurs, donc on voit l'importance pour la suite. Et puis le 13 novembre, c'est aussi un événement qui rentre dans ce cadre-là. Moi, j'étudie particulièrement le 13 novembre. Alors, souvenir flash, en fait, ce que l'on sait, ça a été décrit en 1977 de façon très précise. Depuis, on a beaucoup travaillé sur ces souvenirs flash. Et en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on se c'est un peu un abus de confiance de notre mémoire. C'est-à-dire comme on a l'impression, on se dit, oui, je me souviens parfaitement où je me trouvais, ce que je faisais, etc., etc. On se souvient du contexte. Généralement, ça, c'est souvent vrai. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. On peut aussi, au fil du temps, modifier, transformer ce souvenir-là. Mais alors surtout, le contenu du souvenir, il n'a pas plus de force que d'autres souvenirs. Et sur le 11 septembre, c'est assez facile à démontrer parce que le jour du 11 septembre américain, 2001, on ne savait rien. On ne savait rien de ce qui se passait. On savait qu'il y avait les tours et les avions, mais on n'avait aucune clé pour comprendre. Alors que si aujourd'hui, alors pas tout de suite évidemment parce que vous venez de me poser la question, mais si on demandait à des personnes qu'est-ce que vous avez appris le 11 septembre 2001, les personnes vous parleraient de Ben Laden, d'Al-Qaïda, etc. Alors que c'est faux, parce qu'on ne savait rien. Et les journalistes, moi j'ai eu l'opportunité de discuter avec des journalistes qui étaient sur le plateau des grandes chaînes télé, ils étaient obligés de rester à l'antenne, et pour eux c'était terrible, parce qu'ils n'avaient absolument rien à dire, que de commenter ce qu'on voyait sur les images. Il n'y avait rien d'autre. Donc, vous voyez, ce souvenir photographique, c'est un peu une image. Alors, il y a une exception à ça, c'est le souvenir traumatique des personnes qui vivent un traumatisme. Alors ça, c'est une autre chose, c'est un autre mécanisme. Mais je pense qu'on a...
Oui, là, on n'a pas le temps de continuer plus. En revanche, nos quatre invités sont en dédicace juste à côté à l'espace librairie. Donc, je vous invite à tous aller les rencontrer pour poursuivre le débat et poser d'autres questions. Merci beaucoup pour votre attention.